BFM Business, Impact PME Lebdo, présenté par Philippe Bloch.
Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Impact PME. Vous le savez, notre émission cette semaine consacrée aux PME en partenariat avec la CPME dans la perspective d'une grande fête des PME qui se tiendra le 5 novembre au Palais d'Iéna à Paris. Et comme vous le savez, chaque semaine, on tente d'explorer un petit peu les pistes qui expliquent un peu les difficultés, les enjeux, ce que font les entreprises et la façon dont elles affrontent les défis du moment. Et ce week-end, cette semaine, on a décidé de se pencher sur la croissance des PME et quels sont les drivers de cette croissance. Avec nous trois invités pour en parler. J'ai le plaisir d'accueillir Aurélie Boileau. Aurélie qui est présidente d'Utile et Agréable.
Bonjour.
J'aime déjà le nom de la société. Bernard Hibert. Bernard qui est le président des Escaliers Hibert.
Tout à fait.
Des escaliers superbes et design, on va le voir ensemble. Et puis Ferréol Maioli, directeur général d'Arval France.
Bonjour.
Qui, vous le savez, est un acteur majeur de la location longue durée et qui forcément va nous permettre d'évoquer notamment les problèmes de mobilité des PME. On commence peut-être avec vous, Aurélie, parce que j'aimerais comprendre ce qui se cache derrière Utile et Agréable. Sur votre site, une société qui porte bien son nom. Alors, en quoi porte-t-elle bien son nom? Sachant que, si je ne me trompe pas, vous êtes un partenaire de référence dans le nettoyage d'immeubles et des services associés.
Exactement. Utile Agréable est une société de propreté spécialisée dans les parties communes d'immeubles.
Oui.
Effectivement, il y a de moins en moins de gardiens et nos salariés font le métier des gardiens, c'est-à-dire le nettoyage, la sortie de poubelles et différents services dans les copropriétés.
Alors, j'ai quelques chiffres là qui doivent peut-être apparaître à l'écran, mais 30 années d'expérience quand même.
Oui.
À l'évidence, vous n'êtes pas la fondatrice, vous allez nous le dire. 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et là aussi, c'est terrible, vous savez, je fais la réflexion. Avant cette émission, je veux toujours regarder un petit peu les sites des entreprises. Ils sont jamais à jour. C'est-à-dire que vous évoquez 15 millions, vous êtes déjà à 20 millions. Donc effectivement, le business croît vite. Vous avez près de 800 salariés et 500 syndics partenaires.
Oui.
Alors, ça n'a pas été une création, du coup, puisque vous gérez ça en couple, je crois.
Oui, enfin, l'histoire, c'est que mon père achète cette petite entreprise en 1985. Mm-hmm. C'est alors une toute petite entreprise, puisqu'elle n'a que 2 ou 3 salariés. Et moi, je le rejoins il y a 12 ans.
En sortant HEC ?
Voilà, en quelques années après ma sortie d'HEC Entrepreneur.
Vous êtes HEC Entrepreneur, donc ça vous préparait quand même à entreprendre.
Ouais, avec deux grandes envies. Bah, le premier, c'est de développer ce secteur d'activité qui est une niche de marché et qui est encore assez inexplorée.
Pourtant, il y a des gros acteurs sur les facilities, tous ces secteurs de l'entretien, etc. Il y a des très gros.
Oui, mais cette spécificité de marché n'intéresse pas vraiment les plus gros parce que c'est...
Celle des immeubles sans le...
Voilà, c'est des tout petits marchés. Le panier moyen, c'est 450 euros par mois.
D'accord.
Ce qui ne va pas intéresser les grands de la propreté.
D'accord.
Donc c'est un marché qui est...
C'est une niche.
Exactement, une niche et un marché très atomisé. Ce sont beaucoup de petits acteurs de moins de 10 salariés.
C'était déjà la niche qu'exploitait, qu'avait créé votre père ou pas ?
Oui, exactement. C'est déjà la niche qu'avait créé mon père et avec un formidable potentiel de croissance puisqu'il avait réussi à gagner la confiance d'un certain nombre de syndics de copropriété. Et c'est un marché qui croit comme une toile d'araignée. Donc, on avait beaucoup de potentiel de croissance interne et externe aussi.
Alors, on y viendra. On verra quels sont vos leviers de croissance à vous. On va quand même poursuivre ce tour de table avec Bernard Hibert. Bernard, vous êtes président des Escaliers Hibert, mais aussi développeur d'une marque, finalement, une marque allemande qui s'appelle Treppenmeister.
Treppenmeister,
qui fait des choses très impressionnantes. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive... J'ai vu des photos là aussi, et puis je trouve que je vous connais. Je connais votre entreprise. Et effectivement, on arrive avec une transformation quasiment des lieux spectaculaire. Beaucoup de légèreté, un design extraordinaire.
On est inventeur de l'escalier à marche suspendue.
Alors suspendue.
C'est vrai que ça a complètement révolutionné le mode constructif des escaliers.
Et
ça les a effectivement
rendus... Escalier intérieur, on est bien d'accord.
Essentiellement intérieur.
Ouais.
Et qui les a effectivement rendus extrêmement léger, extrêmement design.
Alors,
et on travaille vraiment sur ces valeurs-là de
marque allemande, qui a un vrai savoir-faire.
Oui, c'est-à-dire qu'au départ, il y a un entrepreneur qui innove et qui crée ce concept.
Absolument.
Et puis ensuite, il est enrichi depuis, on va dire, 30, 35 ans maintenant, par des entrepreneurs comme nous qui innovons. À titre personnel, j'ai créé la marche Enzu, la marche à réflexologie plantaire, que je mets à disposition de l'ensemble des partenaires du groupement aujourd'hui.
Et l'originalité, Bernard Hibert, c'est que vous êtes un réseau d'indépendants qui restent indépendants, mais qui ont la force d'un réseau. C'est assez atypique. C'est pas une franchise.
C'est pas une franchise.
Quel est le concept exactement ? Parce que là, on tient peut-être là une des clés du développement des PME.
Justement, je pense que on a joué la carte de la proximité. L'idée selon laquelle on pouvait se coopter par les compétences, mais en préservant effectivement l'autonomie de chaque entreprise, c'est-à-dire que toutes les entreprises sont indépendantes, mais par contre ce qu'elles mutualisent, c'est leur capacité à mettre des moyens qu'elles auraient aucune d'elles la capacité à mobiliser, c'est-à-dire de la recherche et développement, oui, c'est-à-dire effectivement des supports marketing, mm-hmm, c'est-à-dire du reporting économique aussi de nos boîtes, et qui fait qu'effectivement collectivement, eh bien, on est leader sur notre marché.
Pour situer, vous êtes combien d'entrepreneurs indépendants qui forment ce réseau en France ?
Alors, en France, nous sommes 50, on est 100 en Europe, on pèse grosso modo à peu près 100 millions de chiffre d'affaires, 85 mmh, millions sur les escaliers design, c'est dire le poids que pèse aujourd'hui ce concept finalement partagé.
Alors on reviendra effectivement sur ces différents leviers de croissance historiques, parce que ça fait combien de temps que TripAdvisor existe comme ça?
Alors,
en France
75 le groupement.
D'accord.
Voilà. Okay. 64 la première innovation, 75 le groupement. Et en France, on a vraiment développé ça. J'étais le premier dans la France non germanophone, puisqu'en Alsace et en Lorraine, évidemment,
il y avait... La France, quand même.
c'est la France, mais je dis bien la France...
C'est un Alsacien, c'est pour ça que...
germanophone ou germanophile. Et donc, on a, à partir des années 2000, développé un groupement qui compte aujourd'hui, effectivement, une cinquantaine de membres.
Ferréol Maioli, quand à vous, vous êtes directeur général de Arval France. Arval, c'est... Alors vous dites une PME, oui, en France, ETI, ETI PME, location longue durée, c'est votre métier?
C'est notre métier historique, quand même.
Ça date de quand? Parce que ça appartient à Paribas. C'est une filiale du Paribas, historiquement.
Historiquement, ouais. On a 30 ans cette année.
30 ans aussi.
On parlait d'une trentaine d'années.
Pareil,
donc,
ouais,
en fait, nos 30 ans cette année, on est le compagnon de la mobilité de nos clients. Donc,
ça, c'est vrai qu'historiquement. C'est la baseline, c'est la mission.
C'est notre mission, ouais. Historiquement, c'est vrai que notre métier, c'est la location longue durée. Ça continue à être très majoritairement la location longue durée automobile. Mais de plus en plus, on propose à nos clients des solutions un peu nouvelles qui ne tournent pas forcément autour de la voiture et qui ne sont pas forcément de la location longue durée.
Mais qui sont toujours liés à la mobilité, pour le coup.
Qui sont toujours liés à la mobilité de nos clients ou de leurs collaborateurs.
Parce que les enjeux, quels sont-ils? Enfin, l'évolution, on sait que l'automobile est confrontée à mille challenges, quand même, entre la voiture connectée, entre la voiture autonome, entre le même concept de propriété qui est remis en cause, en fait. Et ça, de toute façon, vous êtes dans ce métier depuis toujours. Vous n'êtes pas
exactement
dans la propriété, justement. Vous êtes dans l'usage plutôt que dans la propriété. Qu'est-ce qui change? Quels sont les vrais drivers de la mobilité sur le marché? Quels sont vos principaux enjeux, en fait, à vous, sur ces thèmes-là aujourd'hui?
Je pense qu'il y en a au moins deux. Le premier, c'est tout en continuant à faire de la mobilité automobile, parce qu'il y en aura toujours demain.
Oui.
Qu'elle soit plus respectueuse de l'environnement. Et puis, à côté, proposer des solutions de mobilité qui ne soient pas nécessairement automobiles, ou en tout cas pas avec un usage exclusif réservé à quelqu'un. Je pense par exemple à l'autopartage.
Sachant que votre cible, elle est, en tout cas, c'est comme ça que vous le présentez, essentiellement les TPE et les PME. C'est votre cœur de métier ?
C'est aujourd'hui un de nos cœurs de métier. C'est là qu'on croit le plus, c'est là qu'on se développe. Historiquement, on a commencé notre activité avec des grandes entreprises.
Oui, je vous connaissais plutôt comme ça au départ.
C'est vrai, et elles sont toujours là. Et petit à petit, on apporte nos solutions à des gens à qui on parlait moins par le passé. PME, professionnels et même particuliers aujourd'hui.
Alors typiquement, on va s'intéresser à nos deux entrepreneurs, et peut-être que la mobilité ou les solutions de mobilité sont peut-être une solution d'ailleurs à la croissance, puisque dans des métiers comme les vôtres, enfin, les artisans, les menuisiers se déplacent, la mobilité est un enjeu important. C'est encore plus vrai pour vous, Aurélie, j'imagine, avec vos équipes. Vous utilisez, si on fait un lien avec le métier en fait de Ferréol, vous utilisez ces outils de la location longue durée? Quelles sont les évolutions? Je sais notamment que la RSE est un sujet pour vous, donc voiture électrique par exemple ou pas?
Oui, effectivement, utile et agréable à une centaine de véhicules qui sont principalement des véhicules utilitaires et effectivement en location longue durée, et nous sommes en train de basculer une partie de notre flotte en électrique.
C'est une demande de vos clients ou c'est une préoccupation? Parce que je sais aussi que vous vous positionnez, j'ai regardé un petit peu vos différences qui sont intéressantes, on y reviendra, parce qu'il y en a qui m'ont beaucoup parlé, comme la gentillesse par exemple. C'est rare qu'on dise que la gentillesse est une valeur affichée d'une entreprise, mais là on n'en est pas encore là. La RSE, c'est une valeur fondamentale chez vous également?
Oui, vraiment une conviction. La conviction d'avoir une entreprise responsable à la fois dans sa politique sociale et aussi dans ses enjeux environnementaux et sociétaux. Et effectivement, en ce qui concerne les voitures, on est en train de basculer une partie de notre parc en électrique sur Paris. C'est pas vraiment une demande des clients aussi clairement
exprimée
que ça.
Mais vous le communiquez ou pas? À l'occasion de ce changement, vous le communiquez?
On le communique, bien sûr, et les clients apprécient.
Et vos besoins évoluent ou pas aujourd'hui? Parce que quand j'évoque toutes ces tendances nouvelles qui affectent la mobilité, quelles sont-elles chez vous? Quels sont vos besoins aujourd'hui?
Alors, on a aussi d'autres moyens de transport, que sont les scooters électriques.
Oui.
On a certains salariés qui utilisent la trottinette. Donc oui, les besoins en mobilité...
D'ailleurs, je me demande, est-ce que vous faites chez Arval ce genre de choses ou pas du tout? Est-ce qu'on ne fait que du 4 roues chez Arval ou est-ce qu'il y a d'autres moyens de locomotion possibles en location longue durée?
Non, on fait du 2 ou 3 roues. On a notamment une solution de vélo partage qu'on propose à nos clients.
Une de plus, si je puis dire, parce qu'il y en a beaucoup qui existent.
Une de plus, mais réservée pour le coup aux collaborateurs en communauté fermée.
D'accord.
Donc réservée aux collaborateurs de nos clients, ce qui peut éventuellement éviter les désagréments connus par ceux qui étaient totalement ouverts à tous les vents. Mais on vient de déployer une solution de scooter électrique pour nos collaborateurs. Donc on va d'abord le tester avec les nôtres avant de le proposer à nos clients. On réfléchit, on se pose beaucoup de questions autour de la trottinette. On voit que ce n'est pas complètement évident, voire même un peu dangereux, mais on regarde de très près ces initiatives. Ouais.
Chez vous, Bernard Ribert, la mobilité est un enjeu ou pas?
Ah oui, ça l'a été dès le départ, c'est-à-dire se dire le moins de distance possible entre les matériaux qui sont la base de notre fabrication, évidemment nos entreprises. Mmh. Donc déjà, le choix de la proximité, c'est celui d'abord de l'emploi de la matière première au plus près de sa transformation. Et c'est vrai que quand on limite les importations, par exemple, de bois exotiques, et qu'on fait pratiquement aujourd'hui dans le groupement que des escaliers à partir des bois européens, c'est déjà en soi réduire l'impact, évidemment, carbone. Puis ensuite, la limite aujourd'hui de la mobilité, c'est évidemment que nous on va poser nos escaliers, on est donc dans un rayon d'action qui peut aller jusqu'à 150-200 km. Mmh. Mais donc effectivement, aujourd'hui, les solutions ne sont pas encore à la portée de nos entreprises. Pour autant, je rejoins ce qui vient d'être dit, effectivement, on est systématiquement en crédit bail, on n'achète plus de véhicules comme l'artisan pouvait le faire il y a 30 ou 40 ans, on achetait son véhicule, on avait l'impression qu'on allait l'amortir sur le long temps. Aujourd'hui, effectivement, le temps, c'est le temps de 3 ou 4 ans. Et puis, on renouvelle les véhicules parce que l'image aussi de l'entreprise, c'est effectivement, en projection, c'est aussi, évidemment, son véhicule. Donc, on est très attentif à ça aussi.
Alors, si on vient un petit peu sur les drivers de la croissance, quels ont-ils été, justement? Comment est-ce qu'on est passé des 2 ou 3 collaborateurs de la société de votre père, aujourd'hui plus de 800 personnes? Aurélie, quelles ont été les grandes étapes et qu'est-ce qui peut l'expliquer? Moi, je vois quand même 2-3 points, si je peux me permettre, de ce que j'ai lu qui m'a marqué. Vous dites que vos équipes sont disponibles et réactives 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous dites qu'il y a 4 valeurs fondatrices, la gentillesse, la réactivité, la responsabilité et l'esprit collectif. Ça explique ce sont des drivers de croissance.
Ah oui, ça c'est sûr, ce sont vraiment des drivers importants de croissance puisque le succès du Tilagrab est vraiment lié à l'épanouissement de ses salariés. C'est au départ de mon père qu'un consultant m'avait donné ce conseil de formaliser les valeurs fondamentales d'utile et agréable.
Qui existaient, qu'on ressentait.
Qui existaient, voilà, que mon père avait impulsé, mais qui
ne s'exprimait
pas, exactement. Ouais. Et on a fait venir des salariés, une centaine, qui ont discuté entre eux.
Pour qu'elles émergent.
Voilà, pour qu'elles émergent. Et donc, la principale valeur, c'était cette gentillesse.
Je trouve ça génial.
Et ça s'exprime vraiment, c'est-à-dire que les salariés d'utile agréable, on les recrute pour leurs compétences, mais aussi pour leur convivialité, leur gentillesse vis-à-vis des clients.
Est-ce que c'est contagieux?
J'espère.
Non, mais notamment parmi les équipes elles-mêmes, est-ce qu'elles se cooptent de cette façon-là?
Oui.
Parce que très souvent, dans une équipe, on peut avoir cette valeur, et puis il y a malheureusement un ou deux êtres toxiques qui ont tendance à ramener tout le monde sur Terre, et quelque part, de rendre cette culture pérenne, c'est assez rare.
Oui, c'est vrai.
Donc,
C'est vrai qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, c'est que c'est difficile de maintenir une culture 100% gentille, c'est même pas bienveillante, c'est gentille.
C'est quand même
un cercle vertueux.
Absolument.
C'est-à-dire que plus on a de salariés entre guillemets gentils, puis ils vont eux-mêmes recruter des personnes qui partagent les mêmes valeurs.
Et l'esprit collectif?
Oui, l'esprit collectif.
Ça a émergé aussi, c'est venu d'eux.
Oui, c'est-à-dire, par exemple, c'est cette idée que nos encadrants sont avec les salariés sur le terrain. On a un niveau de hiérarchie très très faible.
Très court.
C'est-à-dire que moi-même, je vais sur le terrain régler les problèmes, rencontrer mes salariés, et à toute échelle de l'entreprise, on a cet aspect collectif.
Si vous deviez, Bernard Ribert, sur à la fois, enfin, j'ai un très peu de Meister, mais surtout les escaliers Bernard Ribert et le réseau que vous incarnez, vous avez fait cet exercice de valeurs fondatrices et de valeurs différenciantes ou pas?
Un mot, par exemple.
Vous pouvez expliquer la croissance.
Le poseur réalise les promesses du vendeur. C'est-à-dire
le poseur réalise les promesses du vendeur.
C'est-à-dire en fait, là aussi, il y a une très faible, très faible niveau d'hierarchie entre évidemment ceux qui conçoivent, ceux qui fabriquent, ceux qui mettent en œuvre. Pour nous, il y a une équipe et on dit même que les escaliers, ils sont signés, quoi, d'une certaine façon.
C'est-à-dire par le menuisier, par
celui qui l'accueille. Chacun est responsable de son projet. Et cette proximité-là, c'est au-delà des mots, c'est ça. C'est-à-dire se dire que entre le client final, finalement, et puis l'entrepreneur, il y a des acteurs qui participent collectivement de cet acte de créer. Donc la notion de création, c'est-à-dire que on se qualifie nous de créateurs. Voilà, alors créateur d'escalier, hein, bien entendu.
Oui, c'est votre marque.
C'est ça l'idée.
Absolument. Est-ce que le digital, on va revenir aussi sur les. Alors, je vais te poser la même question à vous, en fait, Ferrel. Est-ce que les valeurs sont également présentes chez Arval? Est-ce qu'elles ont aidé? Est-ce que c'est la même façon de vivre des valeurs dans, malgré tout, une grande entreprise avec combien de salariés en France?
1400
personnes. Et alors là aussi, 800 personnes, c'est déjà une belle entreprise. Mais est-ce qu'il y a des différences là-dessus? Est-ce que vous avez fait vous-même ce même exercice qui pourrait expliquer aussi le leadership d'Arval dans votre métier?
Il y a sans doute des différences. Mais je pense que il y a le même fondamental qui est que c'est nécessaire pour rassembler des gens, une communauté d'Arvaliens, en l'occurrence pour nous.
On parle d'Arvaliens.
Autour d'un projet. On parle d'Arvaliens.
Déjà ça, c'est de l'appartenance.
Exactement.
Oui.
Donc on a fait ça. Je crois qu'on arrive aujourd'hui, on a grandi assez vite, 30 ans, je le disais tout à l'heure. Et puis en plus, notre activité est en train de changer. On le voit, on l'a à peine évoqué. Et donc je crois que, on est à un moment où on a besoin de retravailler ce sujet-là. Je pense d'ailleurs qu'il faut le faire assez régulièrement.
Elles sont pérennes, les valeurs, ou est-ce que forcément, par rapport à la mutation du contexte, elles doivent évoluer? Ou au contraire, c'est la seule chose qui doit jamais évoluer? Parce que on entend un peu les deux discours là-dessus.
Moi, je crois justement qu'elles peuvent évoluer, au gré aussi des gens qui nous ont rejoints. On a racheté il y a quelques années les activités de G, Fleet Service, en France.
Une culture différente.
Donc, il y a une culture
peut-être valeurs différentes aussi.
Et donc, c'est un projet qu'on a de revoir, de les redéfinir ensemble. Mais je crois que c'est très important, même à 1400 collaborateurs.
Vous validez ça, que ça peut évoluer, les valeurs, ou pas?
Chez nous, elles sont plutôt, les valeurs historiques sont plutôt un socle. Ce qu'on a fait pour pouvoir les rendre encore très présentes, bien que l'entreprise ait grandi, c'est qu'on a créé des agences par département, qui sont comme des petites PME, et qui sont des relais elles-mêmes des valeurs auprès des salariés.
Oui.
C'est comme des boutiques qui sont des lieux d'accueil.
On garde un peu de liberté.
C'est ça.
On n'a pas besoin forcément de demander la permission. Ouais. C'est le grand truc du moment. Pouvoir agir sans demander la permission.
Non, mais l'esprit PME. Garder l'esprit PME.
Oui, c'est ça.
TPE-PME. Voilà. Et finalement, nous, réinventer d'une certaine façon l'artisanat qu'on pensait uniquement individualiste, n'est-ce pas? Replié sur lui-même. Et de dire que finalement, ça peut être une force dès lors qu'on développe du collectif. Au-delà de l'intuité personnelle de celui qui est entreprend, il y a la possibilité de mutualiser et par conséquent d'avoir une approche du marché et certainement un service au client complètement différent.
Ah, Bernard, puisque vous m'en donnez l'occasion de parler d'esprit PME, j'adorerais vous demander c'est quoi l'esprit PME à vos yeux, les uns les autres?
Alors, en ce qui me concerne, moi, l'idée que je m'en fais, c'est que d'abord c'est patrimonial, c'est-à-dire que ça part d'un sentiment d'abord personnel. C'est pour ça que
une notion de risque personnel,
effectivement. Je préside une CPME territoriale, je vois bien mes entrepreneurs. C'est ça qui les,
c'est leur ADN. C'est le lien entre eux, c'est ça.
C'est leur ADN.
Oui.
Et par conséquent, à partir de ça, qu'est-ce qu'on est capable de faire? D'abord par rapport à son business plan, par rapport à l'approche de son marché, bien sûr, mais aussi collectivement. C'est-à-dire que l'esprit PME, c'est ça. C'est-à-dire que s'il y a des petites et des moyennes, c'est qu'à un moment donné, elles ont quelque chose à voir entre elles. Mmh. Et maintenant, on associe même les TPE. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que tout ça est un continuum et que...
Mais le point commun, c'est la propriété capitalistique de l'entreprise.
Voilà,
et les risques, le fun et l'énergie qui va avec.
Absolument.
Et vous, Aurélie?
Je dirais l'écoute client, vraiment le fait de connaître personnellement ses clients, pour moi, ça caractérise l'esprit artisan et puis une forme de flexibilité.
D'agilité.
Ouais, d'agilité.
Le recherche les grands groupes. On parle beaucoup d'agilité dans les grands groupes, chez Arval notamment. J'imagine qu'il y a des sujets là-dessus en ce moment, notamment parce que plus l'entreprise grandit, plus il y a des process et plus parfois elle perd en agilité. Est-ce que c'est un débat chez vous? Et question par rapport au PME, quel regard portez-vous, vous, Arval, sur l'esprit PME? En quoi est-il peut-être différent dans vos clients PME qu'il l'est dans les grands groupes?
Alors,
deux questions en fait, l'agilité et l'esprit.
On se disait en démarrant cette émission que nous ne sommes pas ou plus une PME, mais on essaye nous aussi de garder cet esprit-là, tout en étant un peu plus gros et en appartenant à un gros groupe, puisqu'on appartient à BNP Paribas. Je crois que ce qui a fait Arval au démarrage, c'est le fait que tout en étant des salariés, les collaborateurs considéraient que c'était leur entreprise et agissaient comme si c'était leur entreprise, à la fois...
Des intrapreneurs.
Des intrapreneurs.
On parle d'intrapreneuriat aujourd'hui.
Pour innover, pour entreprendre tout en maîtrisant les risques. C'est ce qu'on essaye de maintenir. C'est vrai que c'est pas évident quand on appartient à un groupe plus vaste, mais c'est ce qu'on essaie de maintenir, et c'est un peu dans cet esprit-là qu'on veut justement revoir nos valeurs et le sentiment d'appartenance à Arval dans les prochaines années.
Continuer dans notre façon de fonctionner à ceux que nous servons, c'est-à-dire les PME finalement, garder un peu ce qui marche bien chez eux. C'est quoi les freins du coup à la croissance des PME? On a évoqué quelques leviers de croissance, certainement pas tous dans le peu de temps qu'on a aujourd'hui ensemble, mais quels sont les freins aujourd'hui les uns les autres à la croissance des PME?
Dans les TPE-PME, c'est peut-être la difficulté à envisager l'innovation. C'est plus facile.
L'innovation quoi? De toutes sortes ou bien
toutes
digitales
sortes, ou... Qu'elle soit digitale, qu'elle soit technologique, etc. On se dit, c'est pas notre truc, nous, les PME. Alors que la réalité est tout autre, et on le voit dès lors qu'on mutualise un certain nombre de moyens, on voit que les initiatives, celle du fondateur de ce groupement, en 64, qui a une idée géniale, on est capable d'avoir des idées à partir du moment où on les met en perspective et dans un objectif, effectivement, de développement. Parce que ce qui caractérise quand même l'innovation dans les PME, alors j'en sais quelque chose puisque j'ai déposé les brevets, c'est qu'on voit bien que ça n'a d'utilité pour nous, en tout cas, dans l'appréhension qu'on a de l'innovation, que si on développe derrière.
Bien sûr.
Que très souvent, vous le savez, on fait aussi de l'innovation.
L'innovation, c'est une bonne idée mise en œuvre. Voilà, c'est comme ça la différence. Ouais. Donc la peur de l'innovation.
La peur de l'innovation.
Le fait que c'est pas pour moi.
C'est compliqué. On se dit, c'est pas à ma portée. C'est compliqué d'aller à BPI France ou ailleurs pour chercher des fonds
pouvoir faire des dépôts de brevets.
Se mettre à risque, etc.
Bien sûr.
On se dit on est plutôt dans l'action que dans l'anticipation.
Pas la peur de la dilution capitalistique, c'est pas la peur de financement, c'est pas tout ça. Pour vous, c'est la peur de l'innovation.
C'est la peur de l'innovation. Je pense qu'on a peur, de l'inconnu, mais à partir du moment où on franchit ce Rubicon, on est capable, effectivement, on le voit, d'être extrêmement novateur. Notre groupe, tous les ans, on sort évidemment des nouveaux produits, des nouvelles techniques, etc., et qu'on met directement en marché. C'est-à-dire que le SaaS, en fait, de l'innovation, très souvent, il est plus long. Là, on essaie d'expérimenter immédiatement l'innovation au marché.
Mais là aussi, c'est peut-être parce que vous êtes nombreux et donc vous avez la puissance d'un réseau que vous n'aurez peut-être pas si vous étiez un menuisier indépendant.
C'est la proximité par l'indépendance.
Donc regroupez-vous,
mais
c'est
en
la
même
réponse.
Temps, je pense que c'en est une.
Quand on est petit, regroupons-nous.
Ouais. C'est une force.
Aurélie Boileau, est-ce que vous voyez d'autres freins en général aux PME, pas forcément,
oui.
Ou même dans votre entreprise, quels seraient les éventuels freins à la croissance du TIDEA Grab dans les années qui viennent?
Alors, il peut y avoir un frein très technique puisque notre rentabilité est assise sur les salaires et sur les charges, et que tout changement de législation à ce niveau-là peut être très difficile pour des entreprises, en particulier des PME. Après, je dirais que c'est surtout le recrutement, c'est-à-dire que la PME, elle doit s'appuyer sur des personnes clés aux différents stades d'évolution de son entreprise et faire appel à des nouvelles compétences, et que parfois, c'est difficile de trouver ces hommes clés qui vont être fidèles à l'entreprise, qui vont rester quelques années pour pouvoir mettre en place notamment des projets importants comme l'innovation.
Là, Aurélie, vous parlez plus du top management, ou bien le recrutement est très difficile également du côté des équipes qui vont techniquement, physiquement dans les immeubles, etc. Quel est le plus difficile des deux?
C'est difficile aux deux niveaux, mais je dirais que le personnel d'encadrement est quand même celui qui va impulser, qui va former, qui va déployer les valeurs et qui va être le capitaine du bateau. Et parfois, oui, c'est difficile de trouver ces personnes clés, sachant que on n'est pas un secteur d'activité extrêmement attractif, malheureusement.
On a déjà eu cette discussion avec d'autres métiers.
Il recèle beaucoup de richesses.
Charpentiers, avec d'autres, effectivement. Ferrel, vous voulez intervenir sur cette thématique des freins éventuels, tels que vous les percevez vous aussi chez vos clients?
Parce qu'effectivement, on n'a pas les mêmes problématiques. Moi, j'en mentionnerai deux qui sont peut-être pas exactement les vôtres, mais qu'on perçoit au travers de nos clients. On évoquait tout à l'heure le fait que c'est auprès des PME qu'on se développe le plus. Donc, on a beaucoup de clients PME avec lesquels on échange beaucoup. Un des avantages de ces clients PME, c'est qu'il y a rarement un chef de parc. Donc on a beaucoup plus de contact avec la réalité du terrain et avec la dirigeante. Moi, je citerai peut-être en écho à ce que vous disiez, le fait que la croissance en elle-même peut faire peur parce que ça fait changer l'entreprise, ce qu'elle est, ce qu'elle était. Mmh. Et on évoquait le fait que quand elle grossit, il y a des process qui se mettent en place.
Et sûr, même chez vous, j'imagine.
Oui.
800 personnes, il faut du process.
Ouais.
Donc ça, c'est sans doute une chose. Et puis il y en a une deuxième, même si ça a sans doute beaucoup évolué ces dernières années, ça reste l'accès au financement. C'est un moyen par lequel nous rentrons en relation avec ces PME. C'est la possibilité finalement d'externaliser l'achat de véhicules au travers de la location et de retrouver des capacités de manœuvre. Et j'en déduis que ça reste un frein au développement aujourd'hui, pour certains en tout cas.
On allège la charge de mobilité en fait des entreprises. Un dernier mot peut-être à tous les deux, Aurélie et
Et Bernard, en deux mots, jusqu'où peut aller une entreprise comme la vôtre s'il n'y a pas de frein à la croissance? Quels sont vos rêves les plus fous?
L'entreprise peut vraiment aller très loin aujourd'hui, puisque...
Il y a une vision, il y a un genre...
Il y a une vision. Il y a une vision qui est dans 5 ans. Donc aujourd'hui, on fait 20 millions d'euros, c'est d'en faire 50 dans 5 ans, 50 millions d'euros.
Ah oui, ça va vite.
Part de la croissance externe.
J'allais dire externe, là, pour le
coup. Et de la croissance interne, mais effectivement de la croissance externe, puisqu'il y a beaucoup de petits acteurs qu'on peut agréger assez facilement et qui font exactement le même métier que nous sur certains territoires.
Donc the sky is the limit.
Ah ouais.
Peut-être plus chez vous sky is the limit, non? Dans un métier comme le vôtre, oui, quand 3... on n'a pas forcément l'ambition de passer...
L'objectif, 3% de part de marché.
Oui.
3%.
Donc, il en reste 97 à couper.
Oui, absolument. Donc, en tout cas, d'être sur le cap des 5 et peut-être un jour des 10. En tout cas, on a mis un plan quinquennal en place au dernier congrès là qui vient de se dérouler. Et effectivement, c'est le cap qu'on se fixe pour effectivement asseoir à la fois notre présence dans les territoires et puis développer la profitabilité, parce qu'à un moment donné, le point d'équilibre, il se trouve sans doute aux alentours de 2-3%. Et puis après, on fait vraiment de la croissance avec les profits qui vont avec.
En 15 secondes, Bernard, est-ce que dans un réseau, le risque n'est pas que tout le monde ne soit pas à la hauteur, à la même hauteur, à la même niveau d'ambition? Parce que c'est comme dans un réseau de franchise que j'ai bien connu. Ouais. À un moment, on dépend des autres. Donc, dépend des autres, c'est formidable, ça donne de la force. Parfois, c'est un obstacle. Peut en être un, dans votre cas?
On a pu faire quelques erreurs, effectivement, et ça a été le cas dans l'histoire de ce groupement. Aujourd'hui, on est souché sur une réalité, c'est celle des compétences. On parlait de la difficulté de recruter. Hein. Et si vous voulez, notre force, c'est aujourd'hui de opter des professionnels qui sont effectivement déjà détenteurs de leur savoir. Et après, effectivement, le maintenir, vous avez raison, le maintenir, l'amplifier, le développer, ça c'est l'objectif.
Merci beaucoup à tous les trois. Merci Aurélie Boileau. Je rappelle que vous êtes présidente d'Utile et Agréable, une société qui porte bien son nom. Bernard Hibert, le président des Escaliers Hibert. Ferréol Maioli, vous êtes quant à vous le directeur général d'Arval France. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro d'Impact PME. Et puis je vous donne bien sûr rendez-vous le 5 novembre, toute la journée, pour une grande fête des PME, Impact PME, au Palais d'Iéna à Paris. Bonne fin de journée à tous. Ciao.